Ils sont chiens, taureaux, orques, chimpanzés, girafes ou cheval. Ils ont marqué l'histoire sur plusieurs générations au point de devenir les protagonistes de récits s'apparentant à des biographies. On y retrouve leur parcours singulier, les grands traits de leur personnalité. Et le dossier de l'émission s'intéresse cet après-midi aux recherches justement qui ont été menées sur des bêtes hors du commun et qui ont donné naissance à des récits se plaçant du côté de l'animal. Ce genre scientifique récent permet de rendre compte de ce qu'a vécu, subi et ressenti l'animal en évitant l'anthropocentrisme, de la girafe du jardin des plantes à la chienne de l'espace Laïka, en passant par le taureau islero qui causa la mort de Manolete. Retour sur ces animaux qui ont fait l'histoire. Et j'attends dès maintenant vos questions, vos messages sur franceinter.fr. Et puis dans la dernière partie de l'émission, et comme toute la semaine, nous retrouverons la campagne officielle pour la présidentielle. C'est Stéphanie Texier qui est de retour et aux commandes aujourd'hui de notre Tête au Carré.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et des biographies animales donc dans un instant avec mes invités, l'historien Éric Baratet et le journaliste et auteur Jean-Philippe Noël. Bonjour à tous les deux. Bienvenue Éric Baratet. La biographie animale, c'est un nouveau genre scientifique, on peut dire les choses comme ça ?
Scientifique, oui. Ouais. Littéraire, c'est très ancien, ça date du XVIIIe siècle au minimum. Mais là, la nouveauté, c'est qu'effectivement, les scientifiques, qu'ils soient des éthologues ou des historiens ou des sociologues, commencent à s'intéresser aux individus et donc à l'intérêt de se pencher sur leurs itinéraires et voir ce qu'ils font exactement. C'est un moyen de mieux comprendre les animaux.
Ouais, et vous allez nous expliquer justement comment vous procédez, vous, en tant que historien et biographe aussi, d'une certaine manière, hein, pour reconstituer le puzzle de ces vies animales. Jean-Philippe Noël, les bêtes qui vous intéressent justement sont devenues célèbres grâce à des personnalités hors du commun. C'est toujours le dénominateur commun.
Oui, je crois que les 50 animaux dont je parle dans l'ouvrage, effectivement, ont ce dénominateur commun d'être des animaux qui sont devenus célèbres et qui ont marqué à un moment l'histoire de l'humanité, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Il y en a beaucoup de ces animaux. Vous avez
Il y en a beaucoup, et le choix n'a pas toujours été facile. C'est une rubrique en fait que j'ai commencé il y a une dizaine d'années pour le magazine 30 millions d'amis. Et je m'étais dit, 2 ans, 3 ans maximum, je vais tenir la rubrique. Et presque 10 ans après, j'en découvre encore des très anciens ou des plus récents que nous donne l'actualité.
Des histoires communes ensemble, on va en discuter évidemment dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré.
C'était qu'une passade digitale et j'en retiens que dalle. Rouge et le pétale sur mon lit d'hôpital et tu disais promis on se fait pas de mal, promis je monte la carte. Pourtant c'est l'escalade, les sentiers en zigzag. C'était qu'une passade digitale.
n'entend pas la dernière lui parler. Tu sais, si je suis bancale, c'est juste que je suis mal. Et rouge est le pétale sur mon lit d'hôpital. Tu disais.
Passade digitale. C'était Marie-Flore à l'instant.
La tête carrée. Sur France Inter.
Avec donc des bêtes qui ont marqué l'histoire, qui font l'objet de biographies, dossiers de l'émission cet après-midi pour découvrir ensemble le destin singulier de nombreux animaux et puis aussi une nouvelle façon de se mettre de leur côté pour comprendre leur point de vue. Pour en parler donc, Éric Baratet, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon, vous êtes spécialiste de l'histoire des animaux et vous publiez donc un nouvel ouvrage, Biographie animale aux éditions du Seuil. Et puis à vos côtés, Jean-Philippe Noël, vous êtes journaliste et auteur et vous allez publier alors dans un mois, le 18 mai prochain, merci d'être venu nous en parler aussitôt. Ces animaux qui font l'histoire, 50 aventures d'animaux célèbres. C'est aux éditions de La Chaux et Nesté. Et donc les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages, les questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Éric Baratet, ce terme de biographie animale, ça peut surprendre évidemment comparé aux biographies humaines. Il était temps de partir finalement aussi à la recherche de ces individus animaux pour décrire et raconter leur vie.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le terme peut étonner parce que nous avons pris l'habitude depuis l'Antiquité de penser les animaux au sens très large, hein, de ouais. L'animal, de l'animalité ou alors de l'espèce, mais très très rarement au niveau des individus. Et évidemment, ce terme de biographie ne convient dans notre esprit que si on pense que les individus sont tous différents, ont un parcours particulier, une histoire particulière, ouais. Ce qui ne nous semble pas du tout le cas pour les animaux.
Ouais. Or, nous même sommes... si les choses se transforment quand même, voilà, hein, on sent qu'il y a un renouveau. Quand
c'est
même,
ce que j'allais ouais. dire, nous sommes en train de revoir tout ça, notamment en matière d'éthologie, mais aussi du côté des historiens. On se rend bien compte que le niveau de l'individu devient absolument fondamental pour mieux comprendre les choses.
Ouais. Ça vous réjouit en tant que spécialiste de l'histoire animale ?
Oui, parce que ça donne une histoire plus complexe. Et je trouve que l'histoire est toujours plus intéressante lorsqu'elle est plus complexe.
Ouais. Jean-Philippe Noël, quel était votre point de vue, vous, justement, en choisissant ces histoires ? C'était de comprendre quel était le rapport des animaux auprès des humains ?
Oui, effectivement, il s'agissait en fait de rappeler que tout au long de l'histoire, de notre histoire humaine, l'animal est présent. Et longtemps... qu'il s'agisse de l'individu ou de l'animal en général, il a été totalement ignoré. Mmh. Donc l'idée, c'était de se servir effectivement de 50 portraits pour pouvoir rappeler l'importance de l'animal dans l'histoire humaine. Ouais. Il n'y a pas d'histoire humaine sans animaux.
Ouais. Et c'est l'éthologie, en l'occurrence, hein, Éric Baratet, qui a permis vraiment de comprendre aussi l'animal en tant qu'individu et de oui. transformer aussi l'appréciation qu'on pouvait en avoir.
Hein. Oui, alors les premiers, ce sont des gens que les primatologues, comme Jane Goodall, lorsqu'elle va étudier les chimpanzés, elle se rend bien compte que pour comprendre le groupe, mmh. il faut déjà détecter chaque individu. Et maintenant, les éthologues ont repris cette idée d'une manière tout à fait officielle. L'éthologie canine, notamment l'école hongroise d'éthologie
oui,
canine.
Oui, vous voulez citer cette école, qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Elle, c'est la meilleure du monde. Ouais. Elle est remarquable dans ses expériences.
Ils vont très loin. Hein.
Ils vont très loin.
Jusqu'à passer les chiens dans l'IRM.
C'est eux voilà, qui ont fait cette dernière expérience au mois d'août dernier. Enfin, mmh. du moins, ça a été publié au mois d'août. Ils vont très loin et pour eux, l'individu est devenu la référence de base. Ça n'est plus l'espèce. Et donc ça complexifie beaucoup plus les choses et ça veut dire aussi, ça permet de faire entrer toutes les questions d'invention, de sociabilité, de culture animale, etc., qu'on ne voit pas si on se met au niveau simplement de l'espèce.
Ils sont très forts, c'est on voit maintenir un chien immobile dans une IRM, il faut quand même le
alors,
faire.
Alors voilà, hein. Ils ont appris à des chiens, à des chiens qui n'étaient pas endormis, à se tenir immobiles. Ouais. Ils ont pu comme ça les passer dans une IRM et en leur parlant, ils ont pu regarder le fonctionnement du cerveau. C'est quelque chose qu'ils voulaient faire déjà depuis quelques années. Ils se sont aperçus. Finalement, on aurait pu s'en douter, mais au moins ils le prouvent. Ouais. Ils se sont aperçus que les chiens en question, activaient les bonnes zones du cerveau lorsqu'on leur parlait de telle ou telle manière. Autrement dit, ils comprenaient les mots au sens large, les intonations, les sens, etc. Et la deuxième découverte, c'est qu'en fait, à chaque fois, ce sont les mêmes zones du cerveau qui travaillent que pour les hommes.
Ouais. Donc ça, c'est ouais. absolument essentiel. Ah,
c'est
ce
une
de
découverte,
de
ou du moins ouais. c'est une preuve absolument essentielle, ouais. bien sûr.
Et ça change l'appréciation qu'on peut avoir des animaux.
Oui, c'est ce que les éthologues hongrois appellent la coévolution. Ouais. Parce que nous sommes avec les chiens, ou les hommes sont, les chiens sont avec nous depuis plus de 40 000 ans. Et donc, on a, nous sommes pas proches biologiquement, mais nous avons, nous sommes rapprochés, nous avons fait une coévolution qui fait que maintenant, ben, on se comprend relativement bien les uns les autres.
Ouais. Jean-Philippe Noël, ce qui est amusant, c'est de voir que, par exemple, quand même, au Moyen-Âge, on considérait l'animal à l'instar d'un homme, puisqu'on lui infligeait aussi des procès et on le plaçait du côté des...
Effectivement, il y a toute cette interrogation et toute cette part de l'histoire des procès animaux qui a donc qui ont été très très nombreux au courant du Moyen Âge.
Surtout chez les porcs. Hein.
Alors, il y a beaucoup de porcs, mais je crois que tous les animaux, beaucoup d'animaux ont été jugés. Alors, les porcs sont les plus classiques et les plus connus. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient vraiment au milieu des hommes et je pense que aussi ils étaient effectivement, ils pouvaient se montrer très meurtriers. Et en tout cas, c'est le cas de la fameuse truie de Falaise qui a eu droit à un procès en bonne et due forme puisqu'elle avait dévoré dans une cour de ferme un gamin de
3 mois,
d'où il y a un enfant de 3 mois. Ouais. Et donc elle a été capturée, jugée avec avocat et on lui a fait subir elle a été jugée coupable et donc elle a subi les tortures qu'elle avait elle-même infligées
à ce bébé.
Ouais. En même temps, elle a été très humanisée, c'est-à-dire qu'en fait, on l'avait habillée, ouais. Elle portait un masque et elle portait des gants. Et elle a été complètement, donc un masque parce qu'en fait elle avait dévoré un peu le visage de l'enfant et on lui a fait subir les mêmes.
Ouais, on lui a coupé le groin.
On lui a coupé le groin.
En l'occurrence.
On lui a mis un couteau dans la jambe parce qu'elle avait dévoré la jambe, etc. etc.
Avant de la pendre.
Et elle a été pendue et puis ensuite elle a été traînée par un cheval. Et c'est vrai qu'effectivement on retrouve beaucoup de procès de porcs. Mais on trouve aussi d'autres procès, et dans le bouquin, je parle entre autres des procès qu'on a fait aux sangsues qui étaient devenues trop nombreuses dans un étang. Et alors, ce sont des procès religieux et à qui on demandait de partir sous peine d'être excommuniés. Oui. Ça n'a pas marché.
Oui, on s'imagine.
Mais il faut imaginer que quand même, il y a eu un véritable procès avec un juge et des avocats et qu'on a amené 3-4 sangsues dans un bocal ou dans un verre, à qui qu'on a remis ensuite dans les temps en leur disant, allez porter la bonne nouvelle, dites qu'il faut que vous partiez parce que sinon vous allez être excommuniés.
Ouais.
Ça n'a pas fonctionné très bien. Mmh. Mais en même temps, ces procès ont duré des années.
C'est ça. Éric Barrette, c'est étonnant quand même, parce qu'on voit ce statut au fond de l'animal qui varie et qui est presque ambigu aussi au fil de l'histoire quand même.
Oui, c'est la tentation des 14e, 15e siècles de prendre les animaux pour des personnalités.
C'est ça.
Et de les intégrer. Alors, par exemple, les procès d'excommunication, on les voit naître effectivement, comme vous l'avez dit, au 14e siècle. On en voit encore en France jusqu'au 18e siècle, dans la région de Besançon. Et il y a l'idée, évidemment, que ces animaux, si on les menace d'excommunication, c'est qu'ils font partie de l'Église. L'Église au sens large, c'est-à-dire la communauté des créatures de Dieu.
Mmh, absolument.
Et évidemment, cette liaison-là va être ensuite abandonnée à partir du XVIIe siècle avec tous les faits du cartésianisme, où là, au contraire, on va passer les animaux du côté des objets.
Et oublier totalement qu'ils sont des individus, justement.
Hein. Exactement.
Alors, c'est le travail que vous proposez, justement, avec ces biographies. C'est vraiment une nouvelle approche, hein, au fond, qui a commencé quand même avec quelques éthologues, hein, qui ont écrit eux-mêmes des récits, pour se placer, comme vous le faites, du côté de l'animal. Donc, c'est un parti pris très particulier, qui est critiqué, d'ailleurs, aussi. Hein.
Oui, l'idée, c'est que, pour comprendre la relation entre les hommes et les animaux, on sait bien ce qui se passe du côté des hommes, on a quantité de documents là-dessus. Mmh. On sait peu ce qui se passe du côté des animaux, et puis même, en fait, on ne s'est même pas posé la question. Hein, ces animaux-là, souvent, on considère qu'ils sont un peu des objets dans la relation entre les hommes et les animaux, qu'il n'y a qu'un acteur actif qui serait l'homme uniquement. Et en fait, non, si on veut bien regarder de l'autre côté, se placer du côté des animaux, ben on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de documents.
Alors, comment on fait, justement, pour les réunir, ces documents, ces témoignages ?
Alors, le problème, c'est qu'il faut trouver les bons documents, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de tous les animaux, et les animaux dont je parle dans ce livre, en fait, ce sont des animaux pour lesquels les documents étaient suffisamment explicites. Mmh. Donc, il faut avoir des gens, des auteurs, qui nous donnent suffisamment de renseignements, d'indices, dispersés dans le texte, Et ces indices, en les croisant avec ce qu'on sait actuellement en matière d'éthologie, de psychologie, de physiologie, de vétérinaire, eh bien, en les croisant, on arrive à bien comprendre, ou relativement bien comprendre, ce qui se passe du côté des animaux.
Donc, de se mettre à leur hauteur.
Se mettre à leur hauteur, essayer de voir ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient de leur côté. Et on se rend compte que ça marche. Il y a des choses que l'on comprend bien et que les auteurs même de l'époque ont relativement bien vu. Alors on peut compléter, expliciter, on verra des exemples, mais ça marche relativement bien. Ouais. Alors on ne sait pas tout de ces animaux, sans doute que 20 ou 30% de ce qu'ils ont réellement vécu. Mais c'est déjà mieux que rien, et finalement, dans beaucoup d'aspects scientifiques, on ne sait pas ce qui se passe du côté des autres à 100%.
Ouais.
Ce sont toujours, évidemment, des approches.
Ce travail, il est important, et il faut absolument éviter aussi l'anthropocentrisme. C'est l'écueil aussi dans ce
Alors,
travail.
Il faut éviter l'anthropocentrisme qui ramènerait tout à l'homme. Il faut aussi éviter l'anthropomorphisme qui ferait qu'on plaquerait une humanité sur ces animaux-là.
Ouais.
Hein, et alors, maintenant, on arrive quand même à faire, et on arrive, et notamment les éthologues, les primatologues, les spécialistes des chiens, par exemple, maîtrisent très bien l'anthropomorphisme, à la fois ses dangers et puis ses avantages. Parce que si ce sont des espèces proches, l'anthropomorphisme peut être un moyen de comprendre ce qui se passe du côté de l'animal sans aller jusqu'à plaquer totalement l'humanité.
Patrice sur franceinter.fr demande si vous parlez des fausses histoires sur des animaux célèbres. Alors, c'est pas le cas pour vous, Éric Baratet, je peux déjà le dire, mais petite exception pour Jean-Philippe Noël.
Hein, sur les fausses histoires.
Ouais, bah sur des animaux qui n'ont pas vraiment existé.
Alors sur les animaux qui n'ont pas existé. Alors effectivement, il y a.
Vous êtes accordé une petite sortie de route.
Trois sorties de route en fait, parce que c'est des animaux qui sont presque vrais, ou du moins qui l'ont été. Alors j'en ai deux qui sont le chien sanguinéfort, qui est un chien qu'on a appelé sanguinéfort, dont l'histoire n'est pas claire, mais qui en gros est un chien qui dans la région de Lyon, dans les Dombes, a été canonisé, on va dire, par les populations locales, et qui pendant 8 siècles a été l'objet d'un culte. Et les femmes qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants allaient prier ce saint. Et donc, mais pendant 8 siècles, on a cru véritablement à l'histoire de ce chien qui aurait, au Moyen-Âge, sauvé un enfant de la mort d'un serpent. Donc en fait, on est totalement dans la légende, parce qu'on raconte qu'un gros serpent se serait introduit chez un aristocrate local, et qu'en fait, il n'y avait personne dans la chambre de l'enfant, et que le chien découvre le serpent allant manger l'enfant, se jette sur le serpent, qui le tue, et le maître rentre, découvre le cadavre d'abord du chien, pense que le chien a essayé de tuer l'enfant, et tue son chien. Et on découvre ensuite le cadavre du serpent, et donc ce chien devient le protecteur des enfants, et pendant 8 siècles, il a été prié quand les femmes n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et c'est arrêté juste avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'en fait, on a retrouvé sur place, parce que c'est dans un lieu très précis, on a retrouvé sur place des chaussures d'enfants qui dataient de 1910-1912, qui fait qu'en fait, entre le XIIIe siècle jusqu'à 1914, ce chien saint a été prié. Il y a un autre chien aussi qui a fait beaucoup parler de lui dans la région de Montargis, qui est le chien de Montargis, qui paraît une légende d'un chien qui aurait dénoncé le meurtrier de son maître. Et là encore, pendant des années, on a cru que l'histoire de ce chien était vraie. On sait aujourd'hui qu'en fait, c'est un assemblage d'histoires multiples et diverses qui commence dès l'Antiquité.
Et puis il y a Nessie quand même.
Et puis il y a Nessie. Hein,
comme autre sortie de route.
Voilà. Alors Nessie, c'est ma grosse sortie de route, mais Nessie, elle est tellement vraie. Il y a tellement eu d'études sur Nessie, et elle rapporte tellement d'argent que même si elle n'y a personne dans le lac, on peut presque dire qu'elle existe vraiment.
Bon, donc ce sont dans ces animaux qu'on retrouve dans ces histoires que vous nous racontez. Et puis, évidemment, une histoire qui vous a mis d'accord tous les deux, c'est l'histoire d'une girafe qui s'appelle Zarafa. Enfin, c'est pas vraiment le nom. Zarafa, c'est le nom arabe de la girafe. C'est la girafe, justement, qui est arrivée en France en tant que cadeau pour Charles X. On va écouter justement l'extrait d'un long métrage d'animation français qui a été réalisé en 2012 autour de Zarafa.
Allons, monsieur de Saint-Hilaire, ne nous faites pas attendre plus longtemps.
Voilà, votre majesté. Cadeau du pacha d'Égypte.
Magnifique. Splendide. Merveilleux. Saint-Hilaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Une girafa camélopardalis. Je veux dire, une girafe, votre majesté.
Une girafe? Oh, mais quelle belle girafe!
Vive la girafe du roi!
Non, mais regardez-moi son cou, que c'est laid! J'aime beaucoup les motifs de sa peau, ça irait bien dans mon salon.
Voilà cette girafe qui arrive en France en 1826, offerte comme cadeau diplomatique, Éric Baraté. Hein.
Oui, d'ailleurs le pacha d'Égypte qui offre ce cadeau en envoie une aussi au roi d'Angleterre et une autre à l'empereur d'Autriche-Hongrie. Ouais. Mais les deux autres girafes sont mortes en chemin.
Ouais. Aucune autre girafe n'a suscité un tel enthousiasme et vous racontez ses pérégrinations à travers tout le pays. On va y revenir dans un instant avec vous à l'occasion de ses biographies animales. Andromeda, c'est Gorillaz à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Éric Baraté, professeur d'histoire avec nous pour ce livre Biographie animale qui est paru aux éditions du Seuil. Et puis Jean-Philippe Noël, Ces animaux qui font l'histoire, 50 aventures d'animaux célèbres. Ce livre va sortir dans un mois, le 18 mai, très exactement, aux éditions de La Chaux et Nestlé. Alors les auditeurs nous rejoignent avec les messages. Eddie nous dit ceci, on parle beaucoup des grands animaux, je pense aux fabuleux pigeons qui ont sauvé des milliers de vies pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes intéressé à eux, Éric Baraté et Jean-Philippe Noël?
Alors je suis en train de m'intéresser m'intéresser à l'un d'eux, le pigeon vaillant, le pigeon du Fort de Vaux, en essayant de restituer son itinéraire entre le Fort de Vaux et Verdun, pour savoir ce qu'il a vraiment vécu, justement, hein, lorsqu'il est lâché par le commandant Reynal et lorsqu'il arrive à Verdun. Et en fait, je me suis aperçu en travaillant dans les archives que ce pigeon qui est devenu un héros, puisque vous allez au Fort de Vaux, il y a une plaque en son honneur, ce pigeon, en fait, il a failli, puisqu'il a mis plus de 15 heures pour aller du Fort de Vaux à Verdun. Mais il a failli parce que le pauvre, il a été lâché en pleine attaque allemande et il a dû franchir plusieurs barrages d'artillerie extrêmement forts et manifestement, donc pour qu'il ait mis 15 heures, ça veut dire qu'il s'est perdu ou qu'il s'est tranquillement réfugié quelque part en attendant que l'orage passe.
Ouais, Jean-Philippe Noël, le vaillant héroïque, on le retrouve justement dans votre livre aussi, il a sa petite biographie.
Alors avec une petite précision, il semblerait que vaillant, c'était plutôt vaillante. Puisqu'il semblerait qu'il s'agisse d'une femelle et qu'elle est effectivement aujourd'hui au Mont Valérien. Elle a terminé sa vie. Elle est morte de vieillesse parce qu'il y a eu plusieurs. Il a été difficile de trouver si elle était morte de vieillesse ou.
La belle histoire raconte
qu'elle serait arrivée épuisée, et morte. À cause des gaz peut-être ou quelque chose comme ça. Ça c'est un peu l'histoire. C'est toujours la difficulté de faire la différence entre l'histoire et puis le mythe que ces animaux devenus célèbres ont colporté.
La belle histoire a fait qu'on a prétendu qu'elle était morte en arrivant comme un soldat, comme un héros. En réalité, non.
Elle est morte beaucoup plus loin.
Et aujourd'hui, ce pigeon est empaillé. Il trône au musée de la colombophilie du Mont Valérien à Suresnes.
On continue là-bas au Mont Valérien à élever, je crois, 300 pigeons en l'honneur des pigeons voyageurs comme une tradition, parce que évidemment aujourd'hui, les pigeons voyageurs.
Absolument.
Ne sert plus à l'armée.
Alors tous les deux, vous vous êtes intéressés donc à cette girafe, on en parlait tout à l'heure, arrivée en 1826 en France, mais qui a suscité un engouement mais absolument incroyable. Alors il faut raconter cette pérégrination, parce qu'elle arrive, elle débarque à Marseille, elle reste en quarantaine.
Un moment en quarantaine, ensuite elle reste tout l'hiver. Alors c'est vrai qu'elle déclenche un engouement incroyable, puisque c'est la première girafe vivante qui arrive en Europe depuis très longtemps, sans doute l'Empire romain. Donc c'est un peu comme si on promenait de nos jours un extraterrestre.
C'est deux mondes qui se rencontrent, c'est ce que vous dites au fond avant tout. Cette girafe et la population française de l'époque.
Et jusqu'à présent, on a beaucoup traité de cette histoire du côté humain, c'est-à-dire en racontant l'engouement qu'elle déclenche du côté des hommes. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir ce qui se passe de son côté. Et on a des textes, quand on veut bien chercher, on a des textes, notamment le texte d'un naturaliste marseillais à qui le Muséum de Paris demande un rapport parce qu'on a trop peur qu'elle meure assez rapidement, cette girafe. Et donc on lui demande un rapport et finalement il regarde très bien cette girafe. Il a plein d'indications extrêmement intéressantes et ensuite c'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire qui vient chercher cette girafe qui lui aussi a des indications intéressantes. Et quand on croise avec les savoirs actuels sur les girafidés, eh bien on voit plein de choses, et notamment dans ce stress, ces hésitations...
Et cette fatigue extrême de cet animal qui parcourt des kilomètres de ville en ville.
Exactement, et qui à la fois a un tempérament exceptionnel parce qu'elle survit, et en même temps est soumise à des épreuves. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les incompréhensions, les adaptations entre les deux. Notamment sur l'alimentation. On ne comprend pas pourquoi elle n'aime pas l'herbe comme les vaches ou pourquoi elle n'aime pas les fruits africains. Donc il y a des adaptations réciproques qui font que petit à petit, elle s'habitue, mais en dents de scie, et puis les hommes aussi essayent de s'habituer.
C'est ça. Et elle survit grâce à d'autres herbivores d'ailleurs qui l'accompagnent tout au long du voyage, des chevaux ou des vaches en particulier.
Alors c'est surtout ces vaches. Ouais. Ça, les hommes l'ont perçu un peu en tâtonnant, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des animaux qui la stabilisaient, et notamment les vaches, puisqu'en fait elle ne se nourrit essentiellement que de lait. C'est le cas depuis sa capture. Mmh. Et donc on a perpétuellement des vaches avec elle pour la nourrir de lait chaud. De diète tiède, elle ne prend que à la sortie de la trait, et donc elle ne veut que ça, et ses vaches vont la suivre, ou plutôt vont la précéder tout le long du voyage.
Alors elle va passer de mode, la pauvre, parce que après avoir réuni une foule, 600 000 personnes rien qu'au Jardin des Plantes pour l'accueillir donc à Paris, ensuite elle va passer de mode après justement la chute de Charles X, et puis elle va décéder en 1845 d'une maladie des poumons, et quasiment dans l'anonymat.
Oui, elle est un peu oubliée, elle décède d'une tuberculose sans doute qui lui a été transmise par le lait de ses vaches, ouais. Et par ses vaches.
Jean-Philippe Noël, il y a d'autres histoires d'animaux qui ressemblent beaucoup à celle de cette girafe.
Pour rappeler juste, parce qu'on a parlé de son long voyage, il faut rappeler qu'elle va de Marseille à Paris à pied. C'est pour ça qu'effectivement, elle va être comme ça, rencontrée par la population. Alors effectivement, on a quelques animaux comme ça qui ont été trimballés, entre autres... Au temps de Louis XV, il y a Clara, qui est un rhinocéros indien, qui lui va... Alors, contrairement à Zarafa, elle va passer sa vie en voyage. Et elle va être trimballée entre la France et l'Allemagne, où toutes les cours la réclament. Il faut voir Clara. Et elle passe en Italie, elle passe dans toutes les capitales quasiment européennes. Et elle va avoir cette vie absolument folle d'être trimballée dans un chariot adapté pendant près de 20 ans. Ce qui, comme pour Zarafa, qui malgré tout meurt à 20 ans, ce qui à l'époque, pour un animal enfermé dans un zoo, est quand même assez vieux, ben Clara, pareil, va atteindre l'âge d'une vingtaine d'années, ce qui est quand même très très rare pour l'époque.
Autre biographie animale, celle d'une ânesse qui va rencontrer la route d'une star de la littérature, Robert Louis Stevenson, hein, c'est L'île au trésor, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on peut le rappeler. Et c'était en 1870, Histoire dans les Cévennes. Et alors, ce qui est amusant, c'est que notre ami Hervé Pochon avait, il y a quelque temps, en 2006, reproduit ce voyage de 12 jours dans les Cévennes avec une autre ânesse, évidemment. C'était pour France Inter et il avait pour l'accompagner le livre de Stevenson dont il a lu des extraits sur l'antenne.
Mais revenons à Robert Louis Stevenson, puisque dans quelques instants, je devrais avoir rendez-vous avec mon ânesse. Je suis assez impatient de faire sa connaissance, en espérant que tout notre parcours se passera bien. Et Robert Louis Stevenson écrivait justement à propos de son âne, ou de son ânesse lui aussi, qui s'appelait Modestine, « Restez à choisir une bête de somme. Or un cheval est, d'entre les animaux, comme une jolie femme, capricieux, peureux, difficile sur la nourriture, et de santé fragile. Il est de trop grande valeur et trop indocile pour être abandonné à lui-même, en sorte que vous voilà rivé à votre monture comme à un compagnon de chaîne sur une galère. Bref, c'est un allié exigeant et incertain qui ajoute sans complication aux embarras du voyageur. Ce qu'il me fallait, c'était un être peu coûteux, point encombrant, endurci, d'un tempérament calme et placide. Toutes ces conditions requises désignaient un baudet. »
Voilà, avec ce voyage en 1878, Stevenson et son ânesse, expérience qui va durer 12 jours, mais qui va rendre cette ânesse célèbre, parce que justement Stevenson va l'écrire et raconter cette aventure.
Et en plus, il a deux textes, parce qu'il tient son journal de route, et de ce journal de route, il en sort son voyage. Et les deux textes ne se recoupent pas, et on trouve des informations intéressantes des deux côtés. Ouais. Et d'ailleurs, il enjolive un peu l'histoire dans le voyage, alors qu'il est beaucoup plus cru dans le journal, parce que, évidemment, il lui mène la vie dure à cette pauvre Modestine qui n'est pas habituée à voyager autant. Ouais.
Mais il va quand même verser sa petite larme hein, quand ils vont se alors, quitter au bout de 12 jours.
Effectivement, dans le texte qui sera publié et le plus célèbre, il adoucit ses rapports avec cette ânesse qu'il a quand même, il faut bien le dire, un petit peu martyrisé et qui prend toute leur triste saveur sous la plume d'Éric Baraté. Mais c'est vrai que à la fin, dans son ouvrage officiel, il dit que quand même, il est un peu malheureux. Est-ce qu'il a vraiment versé sa larme?
Oui.
Est-ce qu'il enjolive la situation? Est-ce qu'il se rend compte qu'il a été un peu dur?
Islérot, autre animal dont vous écrivez la biographie, justement ce taureau vainqueur de Manolété. Il resterait peu de choses d'ailleurs de ce taureau, des photographies principalement.
12 photographies du seul photographe qui était présent à cette corrida à Linares en août 47. Il n'y avait pas d'autres médias. Et donc dans toutes les photos qu'a pris ce photographe, il y en a 12 où l'on voit Islérot. Et on peut reconstituer cette corrida d'Islérot avec ces 12 photos. Évidemment, il faut savoir comment se déroule une corrida.
Absolument.
Il faut bien connaître l'éthologie des taureaux. Mais avec ces 12 photos, on voit quand même, ça sert un peu de balise cette corrida.
Et vous donnez beaucoup de détails d'ailleurs sur cette pratique, dont on découvre d'ailleurs la cruauté extrême quand même. Hein.
Ben, si on est du côté du taureau, ouais. Oui, ça, c'est évident. C'est vrai que là aussi, on a beaucoup parlé de la corrida côté humain. Le rite, le spectacle, ouais. Etc. Du côté de l'animal, ça n'est pas du tout évident. Et là, c'est un animal pour lequel on a ces témoignages. Il y a eu ensuite des relations de presse après la mort de Manolette. Et on peut reconstituer et voir notamment quelle est la véritable corrida de ce taureau. Parce que sur Internet, on nous l'a fait passer comme un véritable taureau furieux de 500 kilos. Alors qu'en fait, c'est un petit taureau. C'est l'époque où on taurait de très petits taureaux pour des raisons à la fois économiques et de prudence. Un taureau peureux qui n'a pas du tout envie de combattre.
Auquel on sciait les cornes, pratique secrète à l'époque.
Oui, à qui on avait scié les cornes.
Qui existe toujours ou pas ?
Qui existe en partie.
Qui existe toujours, je crois.
Mais à l'époque, c'était tous les taureaux, pas simplement... lui. Hein. Et puis ce taureau, Manolette se rend compte très vite qu'il est presbyte. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive près d'un obstacle, il ne voit plus rien, il se met à taper dans tous les sens. Et là, ça devient un taureau très dangereux. Parce qu'un bon taureau pour un torero, c'est un taureau qui va tout droit, qui est prévisible. Et donc Manolette décide de le faire châtier très 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 profondément. Et donc on peut, photo après photo, voir ce qui se passe du côté de ce taureau. Ouais. Et il est effectivement très châtié. Il finit la corrida totalement épuisé. À tel point que Manolette pense qu'il est quasiment mort sur pattes.
Erreur.
Et c'est l'erreur. Ouais, et il va être imprudent dans son estocade. Et l'estocade déclenche une réaction de Manolette, du taureau, pardon, et qui embroche donc le torero.
Et qui va lui coûter la vie le lendemain.
Oui, parce que alors le torero est projeté en l'air, puis il retombe à nouveau sur les cornes. Donc il y a deux incisions par les cornes. Et en fait, on est dans une situation dans l'Espagne de l'époque où les soins sont très rudimentaires. Il est mal soigné, il meurt le lendemain. Ouais.
Alors, une autre biographie, très rapidement, parce qu'on arrive au terme, hélas, de notre entretien. Deux chiens errants de San Francisco, Bummer et Lazarus. Comment on fait pour obtenir justement des détails, des documents, des témoignages sur des chiens errants?
Alors, on ne peut pas obtenir des documents sur tous les chiens errants. Là, c'est absolument exceptionnel. C'est parce qu'ils sont devenus des mascottes à San Francisco au milieu du 19e siècle. Ils ont été des vedettes dans les journaux et des articles de journaux ont décrit
l'amitié entre
ces deux chiens.
Absolument. Et
on a des indications sur leur mode de vie, comment ils mendient, comment ils font la chasse aux rats, comment ils coopèrent avec les hommes, où est-ce qu'ils dorment. Ouais. Et ça permet de reconstituer une vie de chien errant qu'on ne connaît plus en Occident, puisque les chiens errants ont disparu. Or, les chiens errants n'ont rien à voir avec nos chiens de compagnie. Ce sont des chiens totalement différents. Et là, c'est un bon moyen, finalement, de reconstituer des animaux totalement oubliés.
Voilà,
juste un petit truc. C'est vrai que dans nos recherches, je pense pour nous deux, la presse joue un rôle important.
Absolument.
Et on s'aperçoit qu'en fait, la presse du 19e accorde beaucoup plus de place à l'animal que la presse d'aujourd'hui, dans ce qui nous paraîtrait aujourd'hui anecdotique. Ouais,
la presse taurine, qui était extrêmement importante aussi pour la description justement du taureau de Manolette. Merci beaucoup à tous les deux. Éric Baratet, biographie animale, donc ça vient de sortir aux éditions du Seuil. Et puis Jean-Philippe Noël, c'est dans un mois. Merci d'être venu nous en parler si tôt.
Merci à vous.
Ce sera aux éditions de la Chaux Nestlé, ces animaux qui font l'histoire, 50 aventures d'animaux célèbres. Merci à tous les deux.
Merci.